Bonsoir. Au moins 33 descentes étaient recensées à la suite des inondations et érosions dues aux pluies qui se sont abattues dans la nuit du 4 au 5 avril sur la ville de Kinshasa. Ce bilan du ministère de l'Intérieur et Sécurité est donné dans la nuit du dimanche 6 avril reste encore provisoire. Plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, se retrouvent sous les eaux chaque fois qu'une pluie s'abat. Pour bon nombre de Kinois, cette situation est due au manque des curages des caniveaux et rivières de la capitale congolaise. La prolifération des constructions anarchiques serait également citée comme l'une des causes de cette catastrophe naturelle à chaque pluie. Que faire pour lutter efficacement contre les inondations à Kinshasa et dans les grandes villes de la RDC? Nous revenons sur ces sujets avec des experts en la matière. Joël Kiana Basila, qui est urbaniste de formation. Il est président national de la Corporation des urbanistes congolais et enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Il est membre d'Expo Béton. Joël Kiana Basila, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les invités.
Apollinaire Salumou, également avec nous dans ce débat. Lui, il est architecte. Apollinaire Salumou, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et avec moi dans ce studio, Frédéric Kaloarali, ingénieur géomètre topographe. Il est chef de division au secrétariat général des affaires foncières. Frédéric Kaloarali, bonsoir.
Bonsoir, maman, quelle écoutée et bonsoir à tous les auditeurs.
À des bonhommes ici à Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en live sur notre page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Ils sont plus de 600, ces habitants de Kisenso, sinistrés des dernières pluies. Parmi eux, des nombreux enfants. Ils sont regroupés dans trois sites, dans différents quartiers. Ils ont besoin d'assistance, nous dit Godefroy, voilà, Atuel, bourgmestre de cette commune. Certains attendent que les eaux baissent pour retourner chez eux, tandis que d'autres n'ont plus carrément d'abri. Godefroy Atuel décrit la situation au micro de Benjamin Modumbi.
Sur place, au quartier Ndanou, c'est l'émotion et la déception qui règnent chez les habitants. Plusieurs familles, dont des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des personnes vivant avec handicap et des enfants, ont passé leur deuxième nuit dehors. Pas d'eau ni électricité. Ces sinistrés ne savent où et comment trouver à manger.
On a tout perdu comme le bien matériel. On ne dort pas, on est toujours début du matin jusqu'au soir. Déjà, ce qui nous manque, c'est ce soir, donc c'est assez compliqué. Et je pense que la nourriture, ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de faire la provision. Je suis enceinte, je ne sais pas comment ça fait.
Par manque de solutions, certaines familles restent perchées avec leurs enfants sur les toits de leur maison en étage. D'autres se déplacent par pirogue pour trouver à manger.
Je suis parti comme ça, acheter quelque chose à manger et puis rentrer pour donner à la famille. Je n'ai pas où aller.
Sur la trentaine de morts enregistrés jusque-là, l'ambulance de la Croix-Rouge vient de récupérer des autres corps. Parmi les morts se trouve un papa aveugle de 20 ans. Quand l'eau des pluies a commencé à envahir son habitation, il a préféré laisser partir sa femme et ses enfants pour rester mourir seul. Sa femme est inconsolable. Entre-temps, des pirogues continuent à faire des navettes à la recherche d'autres corps qui seraient encore sous les eaux. Ici, la population s'est dit abandonnée et demande une assistance humanitaire urgente.
Alors, vous avez compris, c'est plutôt un reportage au quartier Ndanou à Limité. Voilà, c'est notre reporter qui s'y était rendu pour un reportage pour vous raconter ce qui se passe dans ce quartier après ces inondations. Je rappelle que je reçois dans cette émission Joël Kiana Basila, urbaniste de formation, Apollinaire Salumou, architecte, Frédéric Kaloarali, ingénieur, géomètre topographe, chef de division au secrétariat général des affaires foncières. On va commencer avec vous, Frédéric, puisque vous êtes au studio avec nous. D'abord, comment vous avez réagi à ces inondations? On a vu des gens passer la nuit à la Belle Étoile dans des véhicules, dans des stations-service. Comment vous avez analysé cette situation?
Ça a donné un sentiment de tristesse, surtout que nous n'avons pas assez de matériel pour sauver d'abord les vies humaines. En fait, ici, il faut dire, les remontées des eaux avaient surpris tout le monde. Surtout les gens qui restaient vers l'Embaïmbo, ils ont vu les eaux venir. Et ils avaient commencé à alerter les gens qui étaient vers quartier 1 pour dire, attention là-bas, il y a des dangers qui arrivent. Donc ici, nous pouvons dire que nous n'avons pas, en fait, notre météo n'avait pas prévu tout ça. En principe, c'est l'erreur de la météo.
Pourtant, la Metelsat dit avoir prévenu par rapport à ces pluies qui vont tomber. Au mois d'avril, il va beaucoup pleuvoir. Et avait tiré la sonnette d'alarme par rapport au risque des inondations dans la ville.
En fait, la météo donne des prévisions, mais cette fois-ci, même s'il faut parler des pluies décennales, ça n'a jamais atteint ces niveaux-là. Donc tout le monde a été pris de court. Quand vous regardez vers Chekina, vous regardez le pompage des eaux quelque part vers Chekina, là-bas, au quartier 1, c'était une catastrophe. Et c'était le sauve qui peut. Ceux qui s'entêtaient sont partis avec les eaux. Mais ceux qui étaient prudents ont pris le large. Donc ici, nous disons que nos rivières, comme vous l'avez dit à l'introduction, ne sont pas curées. Les gens ont occupé les zones de recul. En occupant ces zones de recul, même les tracteurs pour venir curer, les tracteurs ont des difficultés. Chaque fois, ce sont les géomètres du cadastre qui sont cités. Mais il faut aussi remonter la pente. Ce sont des bourgmestres qui octroient des terres là-bas. Ce sont les chefs de quartier.
Et quand non, des officiels.
Des officiels, oui. Quand vous allez faire les enquêtes, puisque maintenant les enquêtes sont les sanctions doivent être prises à ceux qui seront pris dans cet exercice-là d'octroi des parcelles sur des sites interdits.
Alors les gens demandent toujours des sanctions, mais après, on ne le voit presque pas, des gens sanctionnés par rapport à tout ça.
En fait, comme vous l'avez compris, Kinshasa est dans une zone marécageuse. Vous allez voir les interventions des urbanistes. Nous avons plusieurs rivières au niveau de Kinshasa. Ça veut dire que la nappe phréatique n'est pas très loin. Même pour construire, au niveau de la fondation, souvent, nos collègues ingénieurs sont traités de tous les maux. Pendant qu'ils construisent sur l'eau, il faut faire une fondation solide. Vous avez regardé par-ci par-là les affaissements des maisons. C'est puisqu'on n'a pas tenu compte de la nappe phréatique. Quand vous êtes déjà à moins d'un mètre sur Kassavouf, la nappe phréatique, vous tombez déjà sur l'eau. Ça veut dire qu'à tout moment, les eaux qui ne sont pas orientées, puisqu'il faut dire les choses, toutes nos zones de ruissellement ne sont pas orientées. Les égouts, les quelques égouts que nous avions dans le temps, sont déjà bouchés par des constructions. Et ce n'est pas n'importe qui construit sur les égouts. Ce sont déjà des pouvoirs, la plupart des cas. Soit des hommes d'affaires qui sont solides. Même si vous l'évitez pour dire, mais monsieur, là où vous voulez construire là-bas, il y a un égout. Il ne voulait pas. Donc, tout ça, ça fait que nous ne savons pas faire un plan d'aménagement réel. Je suis content que mon grand frère architecte est là. Nous avons à combattre ensemble à l'UBTP. Mais au moins, sur le plan de la vie, regardez par exemple à côté de l'OFIDA. Il y a un espace vers là-bas. Ça reprend pratiquement toutes les fosses septiques de toutes les constructions qu'il y a à Royal. Mais il y a déjà qui cherchent à construire sur les fosses septiques. Quand vous regardez Maïcha Park, il a construit sur une fosse septique. Mais qui l'a empêché? Donc, tout le monde est responsable de ce qui nous arrive. Débat vers le haut, puisque quand vous regardez, nous risquerons de nous réveiller un matin, quelqu'un construit sur le boulevard du 30 juin. Et si le pouvoir n'intervient pas à ce moment-là, tous nous serons...
Mais ce quelqu'un ne peut pas construire sans avoir une autorisation. Ce quelqu'un construit parce qu'il a obtenu des autorisations.
Non, il y a des gens qui font du n'importe quoi dans notre pays. Vous avez par exemple un général à 4 étoiles. Météo par exemple, pour ne citer que Météo, il y a des gens qui ont dévoilé au site de Météo sa titre. Il vient, il coupe les arbres, il construit et il s'y installe. Ils sont nombreux. La régulation est arrivée après. Après les interventions, vous savez, nous côté administration, il faut dire nous sommes inféodés par rapport au pouvoir politique. Et c'est ça la cause.
La cause principale, on peut dire que la cause principale, ce sont les constructions anarchiques.
Tout ce qui est autour de nos rivières, de fleuves, ce sont des constructions anarchiques. Même quand vous regardez là Kivu, tout autour du lac, il y a des gens qui commencent à pousser même les eaux du lac. Ce n'est pas seulement que Kinshasa. Même Goma, dans toutes nos villes riveraines, il y a des gens qui cherchent à contrôler les eaux. Alors tout ça, c'est puisque le pouvoir public n'agit pas. Dans chaque ville, le président de la démolition, c'est le gouverneur de la ville. Donc, dans chaque province, je veux dire. Mm-hmm. Alors, si on n'était pas compte de ça, c'est lui, puisque tous les rapports convergent vers le gouverneur. Bon, s'il ne prend pas les dispositions utiles, quand bien même l'autorisation de bâtir peut arriver, les titres de propriété, mais nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Je prends le cas, par exemple, du Founa. Généralement, on a eu à casser la maison. C'est parce que l'autorité a agi vite. Il y aurait encore catastrophe au niveau de Founa. Quand vous regardez derrière Comblest, j'ai à gérer cette partie-là. À tant que je le jure du cadastre Barumbu, je n'avais octroyé aucun numéro cadastral. Puisque je voyais les dangers. Les tracteurs qui doivent tirer. Il y a au moins une zone de recul. Au moins de 10 à 15 mètres. Mais les gens mettent leur mur de soutenement sur le. Donc, à l'extrémité de la rivière. Donc, tout ça, quand vous venez vous expliquer, vous dites, non, on va casser votre maison. Ils sont en train de pleurer maintenant.
Avec l'aide des architectes. Heureusement qu'on a un architecte dans cette émission, Apollinaire Salomou. Merci d'être venu dans le studio des radios Okapi. Je rappelle que vous êtes architecte. On est en train de parler justement des causes de ces inondations répétées à Kinshasa. Selon vous, quelles en sont les causes principales?
Et merci beaucoup, Madame Kélina. Et merci aussi de m'avoir invité. Je suis très heureux de voir mon jeune frère Kalwali. Et avant de commencer cette intervention, je voudrais aussi compatir au malheur qui a frappé la population sinistrée d'Indano, d'autres sites inondés. Mm-hmm. Et compatir avec et pour ceux-là qui ont perdu les leurs. Et je voudrais vous dire, Madame Kéline, les causes sont nombreuses. Je crois que mon co-débatteur vient d'étayer certains éléments, mais au-delà de ça, en un mot, je crois que c'est une catastrophe naturelle, c'est-à-dire une pluviométrie abondante dont la précipitation a été au-delà de ce qui était prévu, qui a fait que certaines zones ont été inondées. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle quand les cours d'eau ne connaissent pas les évacuations ou bien les curages. Apprenant l'exemple des rivières Njili. La rivière Njili fait office de dépotoir. La rivière Njili fait office de champs qui sont extrêmes. Il y a aussi les problèmes de tout ce que nous connaissons dans la vie, des constructions anarchiques, dont là, je mettrai... en cause les services des cadastres qui font les lotissements. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des zones qu'on appelle des zones non edificandi, qui est connue par tout le monde, c'est-à-dire des zones non constructibles, qui dans les temps, quand vous prenez une partie des quartiers 8 en Djili, c'était des rizières, hein, où des Chinois faisaient des cultures de riz. Mais vous savez qu'on a poussé l'eau, on a poussé l'eau et pour occuper de parcelles. Quand vous prenez une Ndano, ceux qui connaissent Ndano, il y avait aussi des rizières là où on cultivait les riz. Je voyais les jeunes élèves de l'Institut agricole qui étaient à Mombélé, qui partaient faire les stages, et qui faisaient... C'était des rizières. Mais ça a disparu, ce sont des habitations qui y sont là. Là, je suis en train de parler également de Kissenso. en dehors de zones de Chikandi, il y a de mon frère des affaires françaises connaissent bien, il y a certaines courbes de niveau ou certains sites où les pentes sont faibles par rapport à la nature du sol, qui font en sorte que quand il y a un cours d'eau qui passe, okay, ça ramasse aux alentours. Et il y a aussi les canalisations. Donc vous savez, quand on fait une ville, on prévoit aussi les évacuations des eaux usées et des eaux de pluie, ou des eaux vannes. Telles que vous voyez à la commune de la Gombe, vous savez ce qu'on appelle tout à l'égout, où il y a tout, il n'y a pas de fosse septique. Toutes les matières, les eaux usées et les eaux vannes sont dirigées vers des camps de canalisation pour évacuer jusqu'au bassin versant. Ici, c'est vers le fleuve. Mais les désordres, et on ne peut pas citer les nombres dans ce secteur-là. Il y a aussi ces occupations de ces endroits-là, par exemple, quand vous voyez au niveau de Matete. Là, juste après le pont, vous revenez vers le pont, le saut des moutons. Quand vous venez de l'aéroport, vous vous rendrez compte que cet endroit-là est occupé jusqu'au niveau des eaux. Vous prenez la rivière Ndjili, quand vous quittez là, toute la partie d'Ndanou, il y avait une zone de recul qui ne pouvait pas être occupée. Et ces zones-là sont occupées, comme a dit mon frère, même un tracteur ne peut pas passer pour faire les évacuations. Et tout ça, quand vous regardez les tableaux, est tellement sombre, et les éléments sont, pour ne pas dire, ne sont pas exhaustifs. La liste n'est pas exhaustive.
Donc, cette situation pouvait être évitée si on était dans les normes, si on avait respecté les règles des constructions.
Exactement, madame. Cette situation pourrait être évitée si aussi l'État prenait la responsabilité. On ne pourra pas éviter une catastrophe naturelle de survenir. Mais on prévoit, au cas où une catastrophe peut arriver, il peut y avoir moins de dégâts. Il a parlé de la rivière Founa. Vous savez, tout le temps, quand il y avait des inondations, la sous-station Founa était remplie d'eau. C'est ce qui a fait que les autorités ont pris l'initiative, avec le financement des banques mondiales et autres organismes, qu'on est en train maintenant de dégager cette voie d'eau pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité d'évacuation des eaux. Et ça aussi, c'est tout un problème. Les occupations anarchiques, ça, on en parlera tout le temps. Je peux vous choquer, madame. Vous allez à la commune délimitée, où se trouve Ndanou, il y a différents cours d'eau, il y a des grands collecteurs. Il y a des gens qui ont construit au-dessus. Et on appelle le vice-bourgoumestre qui vient, qui dit non, il faut dégager ces gens parce qu'ils obstruent l'évacuation des eaux. Parce que la voie pour que les eaux circulent, ce n'est pas la chaussée. Ce sont des caniveaux ou des exécutoires ou bien des égouts. Un député national qui vient chasser les vice-bourgoumestres en disant que ce sont mes électeurs, vous ne pouvez pas les chasser de là. Vous voyez un peu, c'est que mon frère a dit qu'ils sont adoubés par les autorités aussi. Et ils sont incapables d'agir. Je crois que le gouverneur était à Ndanou, a vu cette situation. Pas seulement Ndanou, vous allez à Kisenso, vous allez à Lemba, vous allez à Matadi Kibala. Cette situation existe partout. Mais du fait que quand la nature a horreur du vide, parce que l'autorité a démissionné, l'autorité n'est pas là, et vous voyez ce qui arrive. Vous êtes sans ignorer, au niveau du 24 novembre, comme a dit mon frère, il y a un triangle qui donne juste à côté de l'ambassade du Nigeria. Et quelqu'un voulait construire un hôtel à cet endroit. Et ce monsieur a mis une palissade avec le titre de l'autorisation de bâtir. Qui lui a donné? C'est un ministère qui a autorisé. Et actuellement, nous avons le GUPEC, qui est le guichet pour les autorisations de bâtir. Je crois qu'ils s'attellent à ça pour que ces désordres puissent diminuer. Mais et aussi, je crois qu'ils peuvent être incapables si un ordre vient du dessus. Vous voyez un peu? C'est un peu ça le problème.
Mais vous avez aussi une responsabilité, vous, architecte. Lorsque un client vient avec son plan, j'aimerais construire à cet endroit. Vous savez que cet endroit, on ne peut pas construire. Mais vous aidez quand même la personne.
Évidemment, madame, vous savez qu'il ne manque pas de brebis galaises dans cette profession. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi, sans pour autant les indexer, il y a des médecins qui ont des cabinets à des endroits où on ne pouvait pas le faire. Il y a aujourd'hui des avocats qui reçoivent les clients dans des lieux d'aisance ou autre chose. Donc, on retrouve tout ça dans... Vous avez des pharmacies aujourd'hui qui ne répondent pas aux normes. Vous verrez, c'est qui est autorisé par l'ordre pharmacien. Je ne les indexe pas, mais je cite qu'il y a des brebis galaises dans toute profession. Ce qui fait qu'il y a aussi des charlatans, il y a aussi des tout venants qui a juste une connaissance en matière de construction, il se donne le titre d'architecte, et tout ça, ça fait en sorte que, parce qu'un architecte est aussi conseiller du maître d'ouvrage, un architecte est aussi conseiller du gouvernement, et conseiller de ceux-là qui prennent des décisions, il vous dira qu'à cet endroit, on ne peut pas construire. Je vous donne un exemple qui est aussi patent. Vous êtes au niveau de l'arrêt Quado, juste à l'avenue qui va vers la mosquée de la Gombe, au niveau de l'Etex Africano, loin d'ici où nous sommes. Vous savez qu'il y a un ministère qui construit un bâtiment juste à 2 ou à 3 mètres de rail, sous-entendu qu'on n'aura plus le chemin de fer qui va quitter la ville jusqu'à Kitamba.
C'est le ministère des Affaires foncières, hein, c'est votre ministère, voilà. Frédéric Aloani.
Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on peut dire par là?
Merci.
Donc, la personne, c'est-à-dire l'autorité qui est obligée de prendre des décisions pour sauvegarder ou bien pour prendre de notes pour que cela ne puisse pas se faire, elle-même est en train d'empiéter sur le... les normes exigeantes.
Et donc la population suit aussi. Joël Kiana Basila, vous êtes urbaniste de formation, président national de la Corporation des urbanistes congolais, enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Vous êtes membre d'Expo Béton. Comment vous expliquez cette situation?
Encore une fois, bonsoir madame, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Je vois à l'architecte qu'il y a le géomètre topographe, il y a un urbaniste. Donc, ces trois acteurs participent à la fabrique de la ville. Et dans l'entrée de jeu, je veux présenter également mes sincères condoléances aux familles éprouvées et nous compatissons avec eux. Cet avant-midi, j'ai effectué une descente sur terrain avec la commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies. Je palpais du doigt le dégât autour d'Ndanou, autour de la rivière Ndjili. Je suis entré même au temple de l'église Shekina. J'ai rencontré le responsable de l'église de la communauté. Madame, il y a un règle générale qu'on nous a toujours enseigné, qu'on a recommandé aux urbanistes, aux praticiens de la fabrique urbaine. Cette règle nous dit ceci. Dans une ville, dans une agglomération, on ne construit pas n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Je ne veux plus revenir aux analyses de mes co-débatteurs. L'architecte a bien présenté la situation, le géomètre topographe a bien fait sa présentation et au finish, la conclusion partielle dans le cadre de ces débats, on doit comprendre qu'il y a une défaillance autour du secteur de la planification dans toute sa dimension. Au regard des différents portefeuilles qui gèrent le secteur de la planification, en commençant par l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat, les affaires foncières ainsi que les infrastructures. Tous ces secteurs, tous ces portefeuilles sont défaillants par rapport aux prérogatives. Je vais rejoindre le géomètre et topographe en faisant allusion aux aspects politiques qui interviennent dans l'organisation spatiale. Mais qui est au-dessus de la loi? Les villes congolaises, la République démocratique du Congo, disposent des outils de réglementation dans chaque secteur, notamment le secteur de l'urbanisme. S'il y a un secteur qui dispose de la documentation de la réglementation, je citerai l'urbanisme. Déjà avant 60, on a eu un décret du 20 juin 1959 qui a réglementé le secteur. Si aujourd'hui nous avons l'unité industrielle, nous avons l'unité résidentielle, si aujourd'hui nous avons Matété, si aujourd'hui nous avons Cité Verte, si nous avons Maman Mobutu, toutes les anciennes cités planifiées, Lingwala, Kassavu ou Gombe Kalina, c'est le fruit de la planification. On a planifié. En urbanisme, on dit ceci, la planification doit précéder l'occupation. Aujourd'hui, c'est le revers de la médaille. On occupe et par la suite, on planifie. Et cette occupation, elle est une occupation sauvage anarchique en complicité avec celui que l'État a établi comme responsable censé réglementer le secteur. Et du coup, je vais pointer du doigt aux amis des affaires foncières qui octroient des titres à des endroits non appropriés, à des sites non aménagés, et la difficulté c'est laquelle la mauvaise gouvernance, il n'y a pas une coordination. Les affaires foncières octroient des titres, le ministère de l'urbanisme organise l'espace, et il n'y a pas une coordination entre tous ces secteurs. Et du coup, la ville de Kinshasa se retrouve face à un phénomène d'explosion démographique. La population exprime ses besoins au regard du logement. Parce que depuis les années 70, les données qui sont là ne vont pas me contredire. Le pays n'a pas initié une politique immobilière, celle de doter la population de logement. Je vais ouvrir une parenthèse. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, est arrivé à son premier mandat. Il a lancé une opération de doter la population, notamment le militaire, de logement. Ce sont les animateurs, ses collaborateurs qui l'ont trahi. Le chef de l'État, avec sa vision, avec sa politique, il ne peut pas faire tout. Raison pour laquelle l'architecture gouvernementale a des responsables. Dans les questions foncières, il y a le ministère des Affaires foncières. Dans les questions d'urbanisme, il y a un ministère de l'urbanisme. Et ainsi de suite. On ne doit pas dire, non voilà, il ne faut pas qu'il y ait de pluie. La pluie, les inondations, ce sont des phénomènes normaux qui s'observent partout à travers toutes les villes du monde. Et les caractères climatologiques des villes congolaises, il pleut pratiquement tous les 6 mois. Ça nous arrive même pendant les saisons sèches, il pleut à Kinshasa. Et vous allez remarquer, là où les gens ont été frappés par la pluie diluvienne du 4 et du 5, ils ont occupé le bassin versant de Ndjili. Mon aîné a parlé de quartier 8 et 9. Au départ, quand on a planifié Ndjili, Ndjili n'avait que 7 quartiers. Le quartier 8, 9, jusqu'à vers Sekomaf, la partie droite, en entrant à la première entrée du quartier de la commune de Ndjili, cette zone, elle était vide. Elle était déclarée inconstructible. Vous allez de l'autre côté vers Makété. La partie constructible, elle était jusqu'au niveau du rail. À partir du rail, jusqu'au niveau de la rivière, c'était considéré une zone non appropriée à la construction. On n'interdit pas de construire dans des zones marécageuses. Mais il y a des techniques préalables, il y a des précautions à prendre. L'architecte est là, il peut les compléter. On n'interdit pas. On voit à travers les villes du monde les gens construire dans l'eau. Mais ce sont des techniques appropriées, bien définies avec des conditions techniques à mettre en place pour que vous puissiez occuper de pareilles zones. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici à Kinshasa, dans les villes congolaises, toutes ces zones dangereuses sont occupées par des personnes à revenus faibles pour ne pas être de pauvres. Et quand il y a de fortes pluies, la pluie déborde et toutes les personnes sont débordées, sont envahies par le pluie et nous sommes là pour pleurer. Madame, je vous rappelle la dernière fois que je suis passé au plateau de la radio Capi, c'était pour des questions d'inondation. J'étais avec le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, à chaque fois qu'on a commencé à passer à la radio, à la télévision, on doit toujours parler des morts. On doit toujours commencer à prêter des sincères condoléances aux familles éprouvées. Pendant que le pays a des portefeuilles, a des structures censées réglementer.
Mon aîné de la. Il y a un auditeur, s'il vous plaît, Joël Kiana. Il y a un auditeur qui nous écrit depuis Limité, qui pense que le gouvernement devrait prendre des mesures courageuses en détruisant toutes les constructions ou toutes les maisons qui se trouvent dans des zones inappropriées.
C'est sa proposition, madame, mais je nous rassure que ce n'est pas un exercice facile. Dans le contexte congolais marqué par la crise, les gens sont pauvres, vous venez, vous dites, voilà, on va vous démolir et on va vous placer où? Raison pour laquelle en urbanisme, il y a un principe. On ne vient pas après. Nous, en urbanisme, moi, en tant qu'urbaniste, avant d'occuper un espace, il faut d'abord planifier. C'est ce qui a été fait à travers toutes les anciennes cités planifiées. On a planifié Maman Mobutu, les gens ont occupé par la suite. On a planifié Cité Verte, les gens ont occupé par la suite. Pourquoi pas cette politique de planification doit se poursuivre?
Merci, on vous garde
64
encore.
Ans après le départ de Belge, nous continuons à vivre dans l'anarchie.
Joël Kiana, on vous garde encore dans cette émission. Je vais vous redonner la parole pour réagir, mais on va écouter d'abord les avis de ces auditeurs qui appellent sur notre standard. On va se rendre dans la province du Haut-Katanga pour écouter Pierrot. Voilà.
C'est Dieudonné Bangé fils, hein. Je vous appelle depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Ma lecture par rapport à cette question, c'est que dans notre pays, c'est la notion de la prévention qui pose un problème majeur depuis belle lurette et ces morts de trop sont une conséquence logique de la légèreté avec laquelle les choses sont faites. En tout cas, d'un côté, nous avons les autorités congolaises trop focus aux guéguerres politiciennes en lieu place de mettre à contribution les scientifiques, notamment les experts en urbanisme et habitat, en vue de réfléchir là-dessus pour, n'est-ce pas, prévenir les dangers, car j'estime qu'à ce stade, c'est un peu difficile de mettre fin à cette problématique au regard des constructions anarchistes observées un peu partout. Et de l'autre côté, nous avons une population, certes, qui a aussi une petite part de responsabilité, mais qui peut être justificative dans la mesure où, du moment où les gouvernements ne disposent pas des engins en permanence pour la gestion des immondices, cette pauvre population démunie et par manque d'argent se trouve dans l'impossibilité de faire évacuer les déchets. Voilà ce qui leur donne parfois les kilos, n'est-ce pas, d'utiliser ces caniveaux comme poubelles.
Alors c'est plutôt Dieudonné Bangé fils de Kolwezi et non Pierrot de Lubumbashi. Pierrot, vous allez attendre un peu parce qu'on me dit que vous êtes aussi en ligne. On va d'abord, monsieur... Kalwa Ali, voilà, Frédéric Kalwa Ali, comment vous réagissez au propos de cet auditeur du Lualaba, mais aussi de l'analyse faite par Joël Kiana, qui pense qu'il y a un problème de manque de coordination, votre avis?
Merci beaucoup pour la question. En fait, ici, il faut dire... La population a besoin d'être éduquée. En fait, on ne peut pas être têtu jusqu'à aller empêcher l'eau de la rivière Ndjili de passer librement. C'est vrai, c'est une catastrophe. Mais ici, quand tu as dit que ça sera difficile, moi je pense qu'aucun individu n'est au-dessus de la loi, n'est au-dessus de l'État congolais. C'est-à-dire, ici, maintenant, il faut que les choses soient prises au sérieux. Nous avons quelque part, nous parlons de l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire, ça s'impose maintenant puisque, comme il l'a dit, nous ne ferons que compter les morts. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qui vient d'arriver, c'est vrai. Quand vous interrogez même, puisque nos oncles belges, en fait, étaient partis avec beaucoup de secrets. Quand vous regardez au musée des Terviriens, oui, Isoï a évoqué tout ça. Maintenant, au lieu de nous léguer les techniques, puisque quand vous regardez même les boulevards du 30 juin, quand il pleut, à quelques 5-10 minutes, même les piétons ne savent plus passer. Regardez autour des hauts commandements, vous montez vers Royal, c'est déjà submergé. Pourquoi? Tous les égouts, en fait, je veux dire, sont bouchées. Il y a même des individus qui ont construit sur les égouts. Quand vous regardez le casier judiciaire, l'égout principal passe en dessous du casier judiciaire. Et quand vous regardez, j'ai fait l'UBTP avec mon grand frère, quand les rebelles étaient arrivés le premier jour ici, ils étaient passés par ces égouts. On ne sait pas par quel match. C'est-à-dire, quelque part, nous pouvons avoir des solutions à notre niveau, mais ça demande beaucoup de moyens. Donc ici, ce que je voudrais, c'est quoi? Cette fois-ci, que le gouverneur, qui est le patron de la ville, il doit réunir tous ses services techniques. C'est vrai, ça va demander beaucoup de moyens, puisqu'il va demander, le gouvernement central va intervenir, mais au moins, les quatre ministères dont il a cité ici, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, affaires foncières et TPR, tous les techniciens doivent se mettre ensemble pour dire la ville va où. Nous rentrons à la première rue, à BAI, c'est un bureau d'études qui a eu à planifier la ville. En fait, la ville de Kinshasa se projette vers Maluku, celle. Mais les gens ne veulent pas aller là-bas. D'ailleurs, pour qu'on y aille vite, il faudrait que la présidence, par exemple, puisque de l'autre côté, c'est mal exposé par rapport à la frontière, si la présidence peut aller vers Maluku, la primature, les autres ministères, ils pourront tirer la population vers là, en y amenant justement les infrastructures de base. Puisque aujourd'hui, je peux parler des inondations de Bandalungwa, Makelele. C'était à 90-91. Les gens ont été rapportés où? À Bibwa, Sazo, Sakura. Les mêmes personnes qui étaient avec parcelles cadastrées, tout. Ils étaient obligés de retourner là où ils étaient inondés, puisque à Bibwa, il n'y avait aucune structure. Donc, quelque part, nous nous sommes en train de dire, c'est notre gouvernement qui est faible, le pouvoir public. À part les eaux qui nous envahissent, il a parlé des chemins de fer. Il y a les lignes haute tension. C'est aussi notre catastrophe qui nous guette. Je me rappelle...
Vous, le ministère des Affaires foncières, que vous êtes en train de construire sur les chemins de fer.
Oui, ça nous guette nous tous, puisque
aucun pays... Est-ce que c'est normal?
Aucun pays ne peut développer son transport, sa chemin de fer. Je viens du Maroc, laissez-moi vous dire, les Marocains adorent leur train, et leur tramway.
Mais vous qui construisez là, est-ce que c'est normal, vous, des Affaires foncières?
On va laisser la distance voulue, c'est 15 mètres. De part et d'autre du rail, nous laissons 15 mètres pour permettre à ce que s'il y a des raillements, si ça peut tourner trois fois, au moins que ça ne dérange pas le visement. De tout autour du chemin de fer, nous laissons 15 mètres de part et d'autre. L'imitation, nous regardons la hauteur du poteau, on doit respecter aussi de part et d'autre, au cas où ça venait à vaciller. Mais tout ça, ce sont des catastrophes. Nous vivons à côté des catastrophes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder la rivière Ndjil. Mais demain, ça sera où? Rien qu'à parler des inondations, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand je vais peut-être parler de recherche et de musée de Belgique, ils ont parlé de trois facteurs.
Lesquels, rapidement?
Kinshasa est affecté sous les eaux depuis longtemps. Le premier facteur que le musée nous a fait voir, c'est Kinshasa est à faible niveau d'altitude, c'est-à-dire à plus ou moins 514 mètres du niveau de la mer. Deuxième raison, il y a plus de 500 ans, toute la ville était un très grand lac intérieur arrêté par des rochers Stanley Fals.
Donc toute la ville de Kinshasa.
Voilà. Troisième raison, comme c'était un lac, la géologie sous Kin est à 100% sablonneuse. Éponge et devient vite saturée d'eau qui ne veut pas s'affausser car ça roche le soubassement. Ces trois réseaux techniques-là, souvent quand on demande l'autorisation de bâtir, il y a des études géo qu'on demande au niveau de l'office de route. Beaucoup de gens ne font pas ça. Donc on doit aller étudier le sol. En étudiant le sol, c'est pour déterminer si le sol va supporter quelle charge. Mais les gens, dès qu'il a l'argent, même les architectes, même la maquette topographique, ce n'est plus leur problème. Donc, ils construisent vite, et c'est après. Même les taux de ruissellement ici, je crois qu'on va en parler. Les taux de ruissellement, quand nous allons dans une agglomération, les caniveaux ne suivent pas les taux de ruissellement. Toutes les eaux se déversent sur la voie publique. Et la voie publique qui n'est pas aussi canalisée, ça fait que après 15 minutes, on regarde, on ne sait même plus comment rouler. Donc ici, nous devons assainir notre ville. Là, j'étais proche du Parti écologique Soleil, à campagne électorale, vous m'avez reçu ici, nous disions que la ville doit redevenir verte. Quand nous parlons de la cité verte, est-ce que c'est encore verte? Nous parlons de Ngaba, commune de Ngaba. C'est une zone non édificante. Quand vous allez à Ngaba, vous sentez les eaux à moins de 20 cm. Donc, pour dire quoi, la ville doit être réaménagée.
On vous redonne la parole, le temps de prendre cet autre auditeur, ça sera pour vous. Hein. Apollinaire Salomon, Lubumbashi, voilà, Pierrot de Lubumbashi.
Pierrot Mpagna, depuis la ville de Lubumbashi, Léo Katanga. Pouvons-nous aujourd'hui inclure les inondations et la manque des stratégies dans la lutte contre les catastrophes par nos autorités sur la liste des urgences au pays? Comment voulez-vous mettre fin aux inondations sans une approche intégrée et coordonnée à tous les niveaux de la société? Il n'y a pas longtemps que le Metelsat avait prévenu sur les fortes pluies dans les jours à venir dans la ville de Kinshasa. Qu'en est-il du projet du gouverneur de cette même ville de Kinshasa concernant la gestion d'insalubrité et inondation? Pouvons-nous alors affirmer que c'est la résultante d'une mauvaise gestion?
Alors, monsieur Salomon.
Je crois que pour répondre à monsieur Pirot, c'est juste le dernier mot qu'il a cité, le manque d'attention de pouvoir politique. Hein. Pratiquement, stratégie qu'on peut prendre, on ne peut pas refuser à ce qu'il y ait inondation. Vous allez en France, vous allez au Kenya, il y a toujours les inondations. Mais ce sont les infrastructures et les équipements nécessaires qui permettent la fluidité et à ce qu'il y ait moins de dégâts. Alors, c'est un peu ça. Mais s'il faut revenir...
Mais quelles sont les solutions à court et à long terme qui peuvent être envisagées pour prévenir ces catastrophes?
Les solutions à court terme, madame, c'est là où je vais contredire mon ami l'urbaniste, qu'on ne peut pas le dégager. Je crois qu'il y a aussi une notion d'urbanisme. Il y a l'urbanisme constructif et un urbanisme destructif. Constructif et destructif. Qui peut permettre à ceux qui a détruit. Donc, cela ne pourra pas empêcher à ce que l'État puisse avoir des mesures de coercition. Prenons un petit exemple pour ne pas parler seulement des inondations. Vous voyez sur le boulevard Lumumba, à commencer par la 7e rue jusqu'à la 1ère rue, de gauche à droite, vous voyez ces occupations anarchiques. Et demain, après-demain, la ville va encore se dire que non, il y a un problème, il y a un incendie, il y a ces équipements qu'on est en train de mettre là-bas, ça n'a rien à voir avec la beauté de la ville. Donc, il y a un point sérieux problème de la mission régalienne, c'est-à-dire les trois ministères de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire qui est pratiquement absent, et les ministères des Affaires foncières qui traînent beaucoup de crapauds dans ces tiroirs parce qu'arrivent à octroyer des titres aux endroits non édificables. Et tous ces ministères, s'ils connaissaient bien les cahiers de charges ou bien le but pour lequel ils fonctionnent, je crois qu'il y a certaines compénétrations de ce ministère, certaines études qui pourraient aider à ce qu'on évite ces catastrophes. Il y avait un plan SOSAC que l'ancien gouverneur Kimbuta, je crois qu'il a laissé dans les tuyaux de la ville. On pouvait exploiter ces plans de SOSAC. En dehors de ça, mon jeune frère a parlé de BAU, c'est le Bureau d'études d'aménagement urbain, qui tout le temps, c'est une structure étatique qui était financée par les Français, je crois, la coopération française, mais on avait fait des études, il y avait des études. Je ne sais pas, je crois que mon confrère et Corneille, qui est architecte urbaniste aussi, a fait mention de ça. Il y a des études qui étaient avancées dans le temps. Si on prend tout ça, je crois qu'on pourrait apporter une solution et qu'on n'octroie pas des titres de propriété ou bien des titres pour permettre à ceux qui les ont construits n'importe où. Et là, l'État doit avoir des mesures de coercition. Vous êtes sans ignorer, madame, dans l'enclos de l'ONATRA, ce qu'on appelle Sokopao jusqu'à venir au niveau de Baramoto, où on donne les Kawele, on donne ceci. Madame, est-ce que les jours que les pays aura le moyen de construire des trams ou des trains, on ne peut pas évacuer ces gens. Ces gens sont venus quand même de quelque part. C'est là où je rejoins l'urbaniste en disant qu'il faut faire une planification nationale sur nos villes. Parce que quelqu'un qui vient de Molégué pour juste faire le docker ici, il n'a pas où habiter. Vous allez me demander à ce qu'on construise et qu'on donne un crédit à ces messieurs. Ils ne pouvaient pas. Or, si dans tous les pays, ou à Kasongo, ou ailleurs, on pouvait donner ces gens la possibilité à un fonctionnaire qui est à Malembankoulou, avec un salaire décent, on le construit une maison, il n'enverra pas son enfant ici. Ou bien il ne viendra pas ici, il restera à Malembankoulou, soit il fait ses champs avec son habitation. Vous êtes sans ignorer, madame, dans les temps, il y avait des maisons de fonds d'avance. Tous nos parents qui avaient des maisons de fonds d'avance n'étaient pas des ministres. C'était des Kalaka. Vous avez Kassavubo, vous avez beaucoup de communes où les gens pouvaient avoir des maisons de crédit. C'est sûr, des cités s'est construit par rapport à la démographie et à la projection. C'est-à-dire, c'est cela que l'État peut loger ses fonctionnaires, peut loger ses, d'autres personnes qui ont la possibilité d'y accéder à ces arts. Et ça, on aura des villes urbanisées avec des équipements d'évacuation des eaux, des équipements de circulation, des routes qui pourront nous permettre d'alléger ces problèmes des inondations.
On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui attend aussi en ligne.
C'est ingénieur Alain Bouy depuis la ville de Kinshasa, commune d'Engaba. Pour moi, je pense que pour lutter efficacement contre les inondations à Kinshasa et partout en RDC, chacun doit être mis devant ses responsabilités. 1. Le gouvernement doit être sérieux à travers ses différents services et ministères. Le ministère de l'urbanisme doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de construction le long des rivières. Le ministère de la justice doit veiller à ce que des mesures interdisant les constructions le long des rivières soient respectées et de ferrer devant les juges toute personne qui jettera des immondices dans des caniveaux. Les services de voirie et drainage doivent être opérationnels pour éviter les bouchages des caniveaux et créer si possible les caniveaux adaptés pour chaque contrée. Les services de météo doivent informer régulièrement les populations sur des éventuelles inondations. Deuxièmement, la population, on doit être respectueux des règles environnementales, c'est-à-dire avoir des poubelles dans chaque parcelle et ne pas jeter des bouteilles plastiques en route lorsqu'on prend les jus ou de l'eau lors de notre déplacement, car ça bouche des caniveaux. Il faut aussi avoir la culture de consulter les prévisions météorologiques régulièrement. Merci.
Joël Kiana, ce sont là quelques propositions faites par l'ingénieur Alain Bouy qui nous suit depuis la commune de Ngaba pour justement lutter efficacement contre les inondations à Kinshasa et dans les autres grandes villes de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Essayez de vous résumer parce que nous sommes à la fin de l'émission presque.
Merci beaucoup, madame. Je crois que les auditeurs ont donné de belles propositions. La difficulté, nous l'avons déjà présentée. Kinshasa ne manque pas de beaux plans. Kinshasa ne manque pas de documents de planification. Mon aîné, l'architecte, a cité sur ça le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération chinoise, qui a un document de planification. L'élaboration d'un plan d'urbanisme, c'est une recommandation constitutionnelle. En son article 204, on recommande à tout responsable de la province de doter son entité d'un plan d'aménagement. C'est ça que l'ancien gouverneur André Kimbuta a fait. Mais un plan d'urbanisme, on ne doit pas le garder sur un tiroir. Un plan d'urbanisme doit être appliqué. Et l'utilisation du sol, le permis de construire, le certificat d'enregistrement, sinon tous les documents qui sont envoyés, doit respecter les orientations, les affectations d'un plan d'urbanisme. C'est ce qui a été fait il y a pourtant 4 ans. Comment est-ce qu'en 2025, 64 ans après, au plein 21e siècle, nous n'arrivons pas à nous avons dégringolé. Le problème, c'est la bonne gouvernance et la volonté pratique de bien faire les choses. Et puis, je vais citer par une chose où mes collègues techniciens sont là. Madame, nous avons 4 portefeuilles. Nous l'avons cité. Parmi ces portefeuilles, aucun portefeuille n'est géré par un technicien. Ni architecte, ni géomètre topographe, ni ingénieur BTP, moins encore un urbaniste. C'est quand même un secteur technique.
On ne doit pas confier des ministères techniques à des profanes quand bien même la dimension politique intervient. Le ministère de la Santé, on ne peut pas le confier à mon aîné l'architecte Salomo qui est là. Le ministère des Affaires foncières, on ne peut pas le confier. Le ministère de la Justice, on ne peut pas le confier à mon aîné le géomètre topographe qui est là. Il faut quand même faire la part des choses. Voilà un peu ce que moi je peux dire comme mon mot de conclusion. Nous avons des plans, les documentations réglementaires sont là, à travers les villes, notamment Kinshasa, Goma est couvert d'un plan, Matadi est couvert d'un plan, Bukavu est couvert d'un plan, moi-même j'ai élaboré le plan de la ville de Bukavu. Il y a un plan urbain de référence de la ville de Bukavu, qui souffre par son application. Pourquoi ? Parce que le responsable de la province, est-ce qu'il est porteur d'une vision pour le développement de sa province ? Parce qu'il a un plan. Kinshasa souffre de la matérialisation de ce sac, alors qu'un plan d'urbanisme a une force de la loi. Après avoir élaboré un plan d'urbanisme est approuvé, promulgué par les instances législatives, notamment pour Kinshasa, l'Assemblée provinciale a validé, a approuvé ce sac. Mais ce qui se passe à Kinshasa, c'est du désordre. Et qui favorise le désordre, c'est celui qui a le pouvoir étatique. C'est celui qui a le pouvoir d'octroyer le permis de construire. L'architecte, en tant que professionnel, n'octroie pas le permis de construire. L'urbaniste, en tant que technicien, n'octroie pas le permis de construire. Celui qui octroie le permis de construire, c'est l'autorité politico-administrative. Celui qui octroie le certificat d'enregistrement, c'est l'autorité politico-administrative. Celui qui prend l'arrêté portant mortellement, lotissement, d'une entité X ou Y, c'est l'autorité politico-administrative. Sans pour autant consulter préalablement le technicien. C'est ça la grande difficulté. Merci. Comment vous pouvez créer un hôpital sans médecin?
Merci Joël Kiana. Frédéric Kalouahali, ça sera votre conclusion. C'est vraiment très bref. Comment mettre fin à tout ce désordre? C'est des ordres que dénonce Joël Kiani pour vraiment éviter, pour prévenir ces inondations dans la ville province de Kinshasa.
Merci Madame Kouté. Pour finir, je présente d'abord mes condoléances à tous ces sinistrés qui passent des mauvais quarts d'heure maintenant. En fait, le manque d'urbanisation de notre ville de Kinshasa n'est pas la cause principale, mais il y a plusieurs raisons qui nous poussent à fin, c'est-à-dire les zones vertes sont inexistantes maintenant à Kinshasa, nous avons une surpopulation, le gouvernement ne sait pas où mettre tous ces gens-là, c'est ce qui fait que les gens se débrouillent vaille que vaille. Quand vous allez faire les enquêtes, vous verrez que la plupart n'ont même pas l'autorisation de bâtir. La plupart n'ont même pas de titre de propriété, mais comme ils sont là, c'est supposé qu'il y a quelqu'un qui les a amenés. Donc ça, c'est une chose. Pour dire tout, je pense que tous nous sommes co-responsables, puisque les morts innocentes qui viennent d'être frappées par cette inondation, ça serait évité si tous nous avions pris nos responsabilités. Donc maintenant, ici, j'insiste. Pour les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ça c'est le gouvernement central maintenant qui doit s'impliquer. C'est-à-dire on doit vider toutes ces zones d'ombre-là, les gens qui habitent les zones de recul, les gens qui habitent tout au long des chemins de fer, les gens qui habitent les lignes haute tension. C'est le moment d'une pierre qu'on dégage tous ces problèmes. Voilà un peu ce que j'avais
merci, à Frédéric souligner. Calois,
surtout que le pays ne manque pas l'argent pour tous ces genres.
Apollinaire Salomo, votre mot de la fin.
Merci madame. Mon mot de la fin, c'est aussi vous remercier pour cette pédagogie que vous faites. Hein. Je crois qu'il faudra aussi nous aider à avoir des émissions comme ça pour faire de la pédagogie et réveiller les décideurs. Parce que quand on parle de l'État, ils assument les passifs. Ce n'est pas que toute la pierre jetée sur ceux qui nous gouvernent maintenant. Il y a eu des gouvernements successifs. Donc, et demain, ceux-là qui seront appelés à assumer des fonctions étatiques sont appelés à prendre les responsabilités. Donc, quand on gère un pays, on a la population, le peuple des ressources, et apporter les conditions viables pour que demain après demain, qu'on allège la souffrance de cette population. Je crois que mon jeune frère, le topographe, et les Joël, ils ont essayé un peu d'étayer tous les éléments qu'il faut. Et cela nous permettra à ce que, qu'on ait des villes conçues par des architectes, des urbanistes et une planification avec des topographes. Merci madame.
Merci Apollinaire Salomon, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Étienne Lissoumbou et Bertin Kassiama qui m'ont aidé à préparer ce magazine. La mise en onde était assurée par Billy Betou derrière les caméras, Jonathan Folani, Hervé Voka et Clément Chimanga. Martin Sebouchangwe a supervisé ce programme, coordination et présentation Kéline Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.